après Compli. Où l'on visite de nouveau le labyrinthe, l'on parvient au seuil du Finis Africae, mais on ne peut y entrer, car on ne sait ce que sont le premier et le septième des quatre, et enfin Hatso a une rechute, par ailleurs fort docte, dans sa maladie d'amour. La visite à la bibliothèque nous prit de longues heures de travail. En théorie, le contrôle que nous devions faire était facile, mais procéder à la lumière de notre lampe, lire les inscriptions, marquer sur le plan les passages et les murs pleins, enregistrer les initiales, effectuer les différents parcours que le jeu des ouvertures et des blocages nous permettait, fut une chose fort longue et ennuyeuse. Il faisait très froid. La nuit n'était pas venteuse et on n'entendait pas ces sifflements aigus qui nous avaient impressionnés le premier soir, mais par les rayères pénétrait un air humide et glacé. Nous avions mis des gants de laine pour pouvoir toucher les volumes sans que nos mains s'engourdissent. Mais c'était précisément de ceux qu'on utilisait pour écrire l'hiver, avec la pointe des doigts découverte, et de temps à autre, nous devions approcher les mains de la flamme ou les mettre sous notre scapulaire ou les battre l'une contre l'autre en sautillant tout transi. C'est pourquoi nous n'accomplîmes pas notre tâche d'affilée. Nous nous arrêtions pour fouiner dans les armarias. Et maintenant que Guillaume, avec ses nouveaux vers sur le nez, pouvait s'attarder à lire les livres, à chaque titre qu'il découvrait, il se répandait en exclamations d'allégresse, soit parce qu'il connaissait l'ouvrage, soit parce qu'il le cherchait depuis longtemps, soit enfin parce qu'il ne l'avait jamais entendu mentionner et qu'il était extrêmement excité et intrigué. En somme, chaque livre s'avérait être pour lui comme un animal fabuleux qu'il rencontrait sur une terre inconnue. Et tout en feuilletant un manuscrit, il m'enjoignait d'en chercher d'autres. « Regarde ce qu'il y a dans cette armoire !» Et moi, annonnant et déplaçant des volumes, « Historia Anglorum, de Bède, et toujours de Bède, De Aedificatione Templi, De Tabernaculo, De Temporibus et Computo et Chronica et Circuli Dionysi, Orthographia, De Ratione Metrorum, Vita Sancti, Cudberti Ars Metrica. C'est normal, toutes les œuvres du Vénérable. Et regarde là. De Rhetorica Cogatione, Locorum Rhetoricum Distinctio. Et ici, tous ces grammairiens, Priscien, Honora, Donna, Maximien, Victorin, Metrorius, Eutyches, Servius, Phocas, Asper. Bizarre. Je pensais à première vue qu'il y avait ici des auteurs de l'Angli. Regardons plus bas. Hispérica Famina. Qu'est-ce que c'est? Un poème hibernique. Écoute. Hoc spumans mundanas obwalat pelagus horas terrestres amniosis fluctibus cudit margines saxeas undosis molibus iruit avionias. Infima bomboso vertice miscet glareas, aspri ferro spergit spumas sulco, sonoreis frequenter quatitur flabris. Je n'en comprenais pas le sens. Mais Guillaume lisait en faisant rouler les mots dans sa bouche, si bien qu'on aurait cru entendre la rumeur des rouleaux et de l'écume marine. Et ça, c'est Aldhem de Malmesbury, oyez cette page. Primitus pantorum procerum poematorum, pio potissimum paternoque presertim, privilegio panegyricum, poemataque passim prosatori, sub polo promulgatas. Les mots commencent tous par la même lettre. Les hommes de mes îles sont tous un peu fous, disait Guillaume avec orgueil. Regardons dans l'autre armoire. Virgile. Que fait-il ici? Virgile quoi? Les géorgiques? Non, épitomie. Je n'en avais jamais entendu parler. Mais il ne s'agit pas du Marot. C'est Virgile de Toulouse, le rhéteur, 6 siècles après la naissance de notre Seigneur. Il fut considéré comme un grand sage. Ici, il dit que les arts sont poema, rhétoria, gramma, leporia, dialecta, géométria. Mais quelle langue parle-t-il?
Latin,
mais un latin de son cru qu'il jugeait beaucoup plus beau. L'ivoire ici. Il dit que l'astronomie est l'étude des signes du zodiaque qui sont Mon, Man, Tonté, Piron, Damet, Perphéléa, Belgalic, Margalette, Lutamiron, Taminon et Raphaelote. Il était fou, je l'ignore, mais il n'était pas de mes îles. Écoute encore, il dit qu'il existe 12 manières de désigner le feu. Ignis, Coquiabin, Quia incocta, Coquendi abet dictionem, Ardo, Calax, ex calore, Fragon ex fragore flammae, Rousine de rubore, Fumaton, Oustrax de urendo, Witius quia pene mortua membra suo vivificat, Siluleus, quod de silice ciliat, Unde et silex non recte dicitur, Nisi ex qua scintilia silit. Et aeneon de aenea deo, qui in eo habitat sive aquo elementis flatus fertur. Il n'y a personne qui parle de la sorte. C'est heureux. Mais c'était les temps où, pour oublier un monde mauvais, les grammairiens s'amusaient d'abstruses questions. On me dit qu'à cette époque, pendant 15 jours et 15 nuits, les rhéteurs Gabundus et Terentius disputèrent sur le vocatif de « ego » et pour finir, en vinrent aux armes. Mais là aussi, oyez, je m'étais emparé d'un livre merveilleusement enluminé avec des labyrinthes végétaux aux vrilles desquels se présentaient des singes et des serpents. Oyez ces mots « Cantamen, Colamen, Gongelamen, Stemiamen, Plasmamen, Sonerus, Alboreus, Godiflus, Glochicomus. » Mais il dit de nouveau avec tendresse Guillaume. Ne sois pas sévère avec ces moines de la lointaine Hibernie, si cette abbaye existe, et si nous parlons encore de Saint-Empire romain, nous le devons sans doute à eux. En ce temps-là, le reste de l'Europe était réduit à un amas de ruines, et un jour furent déclarés sans valeur les baptêmes administrés par certains prêtres des Gaules, car on y baptisait in nomine patris et filié, et pas parce qu'ils pratiquaient une nouvelle hérésie et considéraient Jésus comme une femme, mais parce qu'ils ne savaient plus le latin. Comme Salvatore ? Plus ou moins. Les pirates de l'extrême nord arrivaient le long des fleuves pour mettre Rome à sac. Les temples païens tombaient en ruine, les temples chrétiens n'existaient pas encore, et les moines de l'Hibernie furent les seuls qui, dans leur monastère, écrivirent et lurent et écrivirent et enluminèrent, et puis se jetèrent sur des nacelles faites de peaux de bêtes et naviguèrent vers ces terres et les évangélisèrent comme si vous étiez des infidèles, tu comprends ? Tu as été à Bobbio. C'est Colomban qui l'a fondé, l'un d'eux. Et donc, laisse-les faire s'ils inventent un latin nouveau, vu qu'en Europe on ne savait plus l'ancien. Ce furent de grands hommes. Saint Brandan arriva jusqu'aux îles Fortunées et longea les côtes de l'enfer, où il vit Judas enchaîné à un rocher, et un jour, il aborda à une île et y descendit, et c'était un monstre marin. Naturellement, ils étaient fous, répéta-t-il avec satisfaction. Leurs images sont à n'en pas croire mes yeux. Et quelle variété de couleurs, dis-je en m'extasiant. Dans une terre qui, en couleurs, n'est pas riche, un peu de bleu et du vert à n'en plus finir. Mais ne restons pas là à discuter des moines hibernes. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi ils sont ici avec les Angles et avec des grammairiens d'autres pays. Regarde sur ton plan, où devrions-nous être ? Dans les pièces de la tour occidentale. J'ai relevé aussi les cartouches. Donc, en sortant de la pièce aveugle, on entre dans la salle heptagonale et il y a un seul passage à une seule pièce de la tour. La lettre en rouge est H. Puis on passe de pièce en pièce en parcourant le périmètre de la tour et on revient à la pièce aveugle. La suite des lettres donne... Vous avez raison. Hibernie. Hibernia. Si de la pièce aveugle, tu reviens dans l'heptagonale qui a comme les trois autres le A de Apocalypsis. C'est pourquoi on y trouve les ouvrages des auteurs de la dernière Thulée, et les grammairiens aussi, et les rhéteurs, parce que les ordonnateurs de la bibliothèque ont pensé qu'un grammairien doit se trouver avec les grammairiens d'Hibernie, même s'il est de Toulouse. C'est un critère. Tu vois que nous commençons à comprendre quelque chose ? Mais dans les pièces de la tour orientale par où nous sommes entrés, Nous avons lu « Fonce ». Qu'est-ce que cela signifie ? Lis bien ton plan. Continue à lire les lettres des salles qui se suivent par ordre d'accès. Fonce Adaeu. Non, Fonce Adae. Le U est la deuxième pièce aveugle orientale. Je m'en souviens. Il s'insère sans doute dans une autre suite. Et qu'avons-nous trouvé au Fonce Adae ? C'est-à-dire dans le paradis terrestre. Rappelle-toi que là se trouve la pièce avec l'autel qui donne vers le lever du soleil. Il y avait quantité de Bibles et des commentaires à la Bible, rien que des livres d'écriture sainte. Et donc tu vois la parole de Dieu en correspondance avec le paradis terrestre, qui, comme il est dit par tous, est loin vers l'Orient, et ici, à l'Occident, l'Hibernie. Le tracé de la bibliothèque reproduit donc le plan du monde tout entier ? C'est probable. Et les livres y sont placés selon leur pays de provenance, ou le lieu de naissance de leurs auteurs, ou, comme en ce cas, le lieu où ils auraient dû naître. Les bibliothécaires se sont dit que Virgile, le grammairien, est né par un malentendu à Toulouse et qu'il aurait dû naître dans les îles occidentales. Ils ont réparé les erreurs de la nature. Nous poursuivîmes notre chemin. Nous passâmes par une enfilade de salles riches de splendides apocalypses et l'une d'elles était la pièce où j'avais eu des visions. Et même, comme nous vîmes de loin à nouveau la lampe fumigatoire, Guillaume se boucha le nez et courut l'éteindre en crachant sur les cendres. Et pour plus de précaution, nous traversâmes la pièce en toute hâte, mais je me souvenais d'y avoir vu la ravissante apocalypse multicolore avec la moulière Amicta Solée et le dragon. Nous reconstruisîmes la suite de ces salles à partir de la dernière où nous pénétrâmes et qui avait comme initiale en rouge un Y. La lecture à reculons donna le mot « Hispania ». Mais le dernier A était le même sur lequel terminait « Hibernia ». Signe, dit Guillaume, qu'il restait des pièces où l'on recueillait des ouvrages de caractère mixte. En tout cas, la zone dénommée Hispania nous sembla peuplée de recueils de l'Apocalypse en grand nombre, tous de très belles factures, que Guillaume reconnut pour de l'art hispanique. Nous notâmes que la bibliothèque recelait sans doute la plus vaste collection de copies du livre de l'apôtre qui exista dans la chrétienté et une immense quantité de commentaires sur ce texte. Des volumes énormes étaient consacrés aux commentaires sur l'Apocalypse de Beatus, et le texte était toujours plus ou moins le même, mais nous trouvâmes une fantastique diversité de variations dans les images, et Guillaume reconnut la patte de certains qu'il jugeait parmi les plus grands entre les enlumineurs du règne des Asturies, Magius, Facundus et d'autres. D'une observation à l'autre, nous parvînmes à la tour méridionale, à proximité de laquelle nous étions déjà passés le soir précédent. La pièce S de Hispania, sans fenêtre, donnait dans une pièce E, et circulairement nous parcourûmes à la file les cinq pièces de la tour pour arriver à la dernière, sans autre passage, qui portait un L en rouge. Nous relûmes en sens contraire et trouvâmes Léonesse. Léonesse. Midi, sur notre plan. Nous sommes en Afrique. Hic sunt Léonesse. Et cela explique pourquoi nous y avons découvert tant de textes d'auteurs infidèles. Et il y en a d'autres, dis-je en fouillant dans les armoires. Canon d'Avicenne, et ce manuscrit magnifique dans une calligraphie que je ne connais pas. Ce pourrait être un Coran, mais malheureusement, je ne sais pas l'arabe. Le Coran, la Bible des infidèles, un livre pervers, un livre qui contient une sagesse différente de la nôtre. Mais tu comprends pourquoi ils l'ont placé ici, où sont les lions et les monstres. Voilà pourquoi nous y avons vu cet ouvrage sur les bêtes monstrueuses, où tu as trouvé aussi l'unicorne. Cette zone dite « Léonesse » contient les livres qui, pour les bâtisseurs de la bibliothèque, étaient ceux du mensonge. Qu'y a-t-il là-bas ? Ils sont en latin, mais traduits de l'arabe. Ayoub al-Rouawi, un traité sur l'hydrophobie canine. Et celui-ci est un livre des trésors, et cet autre, le « De Aspectibus » de Alhazen. Tu vois, ils ont placé au milieu des monstres et des mensonges même ces ouvrages scientifiques dont les chrétiens ont tant à apprendre. Ainsi pensait-on dans les temps où la bibliothèque fut constituée. Mais pourquoi ont-ils également mis parmi les faussetés un livre avec l'unicorne ? Demandai-je. D'évidence, les fondateurs de la bibliothèque avaient de curieuses idées. Ils auront jugé que ce livre, qui parle d'animaux fantastiques vivant dans des pays lointains, faisait partie du répertoire de mensonges répandus par les infidèles. Mais l'unicorne est-il un mensonge ? C'est un animal d'une grande douceur et hautement symbolique. figure de Christ et de la chasteté, il ne peut être capturé qu'en plaçant une vierge dans une forêt, de façon que l'animal, attiré par son odeur très chaste, aille poser sa tête dans son giron, s'offrant comme proie au lac des chasseurs. C'est ce qu'on dit, Atso. Mais beaucoup sont enclins à penser qu'il s'agit là d'une fable inventée par les païens. Quelle déception, dis-je. J'aurais eu plaisir à en rencontrer un au détour d'un chemin forestier. Autrement, quel plaisir peut-on prendre à traverser une forêt? Ce n'est pas dit qu'il n'existe pas. Peut-être est-il différent de la façon dont le représentent ces livres. Un voyageur vénitien alla dans des terres fort lointaines, à proximité du Fons Paradisi, dont parlent les Mapmondes, et il vit des unicornes. Mais il les trouva mal dégrossies et sans nulle grâce, et d'une grande laideur et noire. Je crois qu'il a bien vu de vraies bêtes avec une corne sur le front. Ce furent probablement les mêmes dont les maîtres de la science antique, jamais tout à fait erronés, qui reçurent de Dieu la possibilité de voir des choses que nous n'avons pas vues, nous transmirent l'image avec une première description fidèle. Puis cette description, en voyageant d'auctoritas en auctoritas, se transforma par successives compositions de l'imagination, et les unicornes devinrent des animaux gracieux et blancs et doux. En raison de quoi, si tu sais que dans une forêt vit un unicorne, n'y va pas avec une vierge, car l'animal pourrait ressembler davantage à celui du témoin vénitien qu'à celui de ce livre. Mais comment échut-elle au maître de la science antique la révélation de Dieu sur la véritable nature de l'unicorne? Pas la révélation, mais l'expérience. Ils eurent la chance de naître sur des terres où vivaient des unicornes, ou en des temps où les unicornes vivaient sur ces mêmes terres. Mais alors comment pouvons-nous nous fier à la science antique dont vous n'avez de cesse de rechercher les traces si elle nous a été transmise par des livres mensongers qui l'ont interprétée avec une telle liberté? Les livres ne sont pas faits pour être crus, mais pour être soumis à examen. Devant un livre, nous ne devons pas nous demander ce qu'il dit, mais ce qu'il veut dire, idée fort claire pour les vieux commentateurs des livres saints. L'unicorne tel qu'en parlent ces livres masque une vérité morale ou allégorique ou analogique qui demeure vraie comme demeure vraie l'idée que la chasteté est une noble vertu. Mais quant à la vérité littérale qui soutient les trois autres, reste à voir à partir de quelles données d'expérience originaire est née la lettre. La lettre doit être discutée, même si le sens latent garde toute sa justesse. Il est écrit dans un livre que le diamant ne se taille qu'avec du sang de bouc. Mon grand maître Roger Bacon dit que ce n'était pas vrai, simplement parce que lui s'y était essayé, et sans résultat. Mais si le rapport entre diamant et sang de bouc avait eu un sens plus profond, cette affirmation ne perdrait rien de sa valeur. Alors on peut dire des vérités supérieures en mentant quant à la lettre, dis-je. Et cependant, je regrette encore que l'unicorne, tel qu'il est, n'existe pas, ou n'ait pas existé, ou ne puisse exister un jour. Il ne nous est pas permis de borner l'omnipotence divine, et si Dieu voulait, même les unicornes pourraient exister. Mais console-toi, ils existent dans ces livres qui, s'ils ne parlent pas de l'être réel, parlent de l'être possible. Mais il faut donc lire les livres sans en appeler à la foi, qui est vertu théologale ? Restent les deux autres vertus théologales. L'espérance que le possible soit, et la charité envers qui a cru de bonne foi que le possible était. Mais à quoi vous sert à vous l'unicorne si votre intellect n'y croit pas? Et il sert comme m'a servi la trace des pieds de Venantius sur la neige, traînée jusqu'à la cuve des cochons. L'unicorne des livres est comme une empreinte. S'il est une empreinte, il doit y avoir eu quelque chose qui a laissé cette empreinte. Mais différente de l'empreinte, vous me dites. Certes. Une empreinte n'a pas toujours la forme même du corps qui l'a imprimée, et elle ne naît pas toujours de la pression d'un corps. Elle reproduit parfois l'impression qu'un corps a laissée dans notre esprit. Elle est empreinte d'une idée. L'idée est signe des choses, et l'image est signe de l'idée, signe d'un signe. Mais à partir de l'image, je reconstruis, sinon le corps, l'idée que d'autres en avaient. Et cela vous suffit ? Non, parce que la vraie science ne doit pas se contenter des idées, qui sont précisément des signes, mais elle doit retrouver les choses dans leur vérité singulière. J'aimerais donc remonter de cette empreinte à l'unicorne individu qui se trouve au début de la chaîne. De même que j'aimerais remonter des signes vagues laissés par l'assassin de Venantius. Signes qui pourraient renvoyer à beaucoup d'autres, à un individu unique, l'assassin en personne. Mais ce n'est pas toujours possible en un court laps de temps et sans la médiation d'autres signes. Mais alors, Il m'est toujours et uniquement possible de parler de quelque chose qui me parle de quelque chose d'autre, et ainsi de suite, mais le quelque chose final, le vrai, ne l'appréhend-on jamais ? Si, peut-être. C'est l'unicorne individu. Et ne t'inquiète pas, un jour ou l'autre, tu le rencontreras, pour noir et laid qu'il soit. Unicorne, lion, auteurs arabes et morts en général, dis-je alors. Sans nul doute, c'est bien ici l'Africa dont parlaient les moines. Sans nul doute, c'est elle. Et si c'est elle, nous devrions trouver les poètes africains auxquels se référait Pacifico de Tivoli. Et de fait, en reparcourant notre chemin à rebours et en regagnant la pièce L, je trouvais dans une armoire toute une collection de livres de Florus, Fronton, Apulé, Martianus Capella et Fulgens. Donc, c'est ici, selon Béranger, qu'il devrait y avoir l'explication d'un certain secret, dis-je. Presque ici. Il employa l'expression « finis Africae » et c'est à cette expression que Malachis s'irrita fort. Le finis pourrait être cette dernière pièce ou encore… Il eut une exclamation. « Par les sept églises de Clonmacnoise, tu n'as rien remarqué ?»« Quoi ? Revenons sur nos pas à la pièce S d'où nous sommes partis.